Oui, je vous fais un petit point sur un sujet important qui est, que vous connaissez sans doute assez mal. C'est la seigneurie au XVIIIe siècle. Donc la seigneurie, c'est un système, un territoire, mais c'est aussi un système de relations sociales et de relations de domination. Qui désigne l'ensemble des droits et des pouvoirs exercés par le seigneur. Qui, un ensemble de droits et de pouvoirs qui pèsent sur des terres qui la composent, et donc sur les individus qui y résident. Donc c'est à la fois un système et un territoire qui correspond à un territoire qui comporte des relations donc, de domination hein, très fortes, de personne à personne, sociales, mais aussi des relations économiques, comme vous allez voir, judiciaires, etc. Donc voilà, c'est une forme d'organisation du territoire qui date de la période féodale du Moyen-Âge, donc qui existe encore fortement au XVIIIe siècle, qui structure beaucoup la vie paysanne au XVIIIe siècle, même si elle est de moins en moins forte. Voilà, elle a beaucoup changé, elle est de moins en moins importante. Par exemple, la plupart des villes se sont libérées de la tutelle seigneuriale et ont des municipalités, alors qu'ils prennent différents noms. Qui sont des municipats, par exemple, en Alsace, qui sont des qu'on peut appeler des communes aussi, ou des municipalités dans d'autres provinces du Royaume de France. Mais bon, dans les campagnes, surtout les plus éloignées des villes, ça reste un cadre essentiel. Alors, faire un mémo, donc moi je me fonde sur le manuel de Emmanuel au féminin, c'est un prénom féminin charpentier qui s'appelle Les campagnes françaises à l'époque moderne, et dans son chapitre 2, elle décrit justement la seigneurie. Elle le décrit assez bien, donc je me fonde là-dessus. Alors d'abord, la seigneurie, elle se compose d'un premier territoire qui est au centre de la seigneurie, souvent, et que vous voyez d'ailleurs dans le manuel d'Emmanuel Charpentier, c'est le document 11, donc c'est accessible sur Cairn. Hein. Qui est le château de Bonabry à Ilion, en Bretagne, dans la province de Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et elle montre bien, il y a un plan, etc., que le domaine, c'est le centre de la seigneurie. Le domaine, c'est ce qui appartient directement au seigneur. Et donc, il concentre tous les symboles de la domination seigneuriale, et en particulier, la demeure du seigneur, c'est le château. Et le château de Bonabry, alors sur le plan, hein, on le voit, alors c'est un plan, on n'y est pas représenté, mais... c'est un repère visuel important, c'est la plus grande des maisons des bâtisses de la seigneurie, donc elle signale la domination du seigneur. Souvent, il est construit depuis... Quand ils datent du Moyen-Âge, ils sont souvent construits depuis ce qu'on appelait une motte féodale, c'est-à-dire une colline, pour des raisons de protection. Hein. Les seigneurs du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ils ont gardé l'habitude de construire leur château plutôt sur des endroits plus hauts, ce qui montre aussi la domination. Là, il ne s'agit plus de se protéger, puisque, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Les seigneurs n'ont pas les moyens hein, de se protéger contre des incursions étrangères. C'est l'armée royale hein, qui s'en charge. Mais voilà, ça reste un élément architectural de la domination. Et puis au XVIIIe siècle, comme ces châteaux sont de moins en moins des forteresses militaires, mais de plus en plus des endroits de vie, de villégiature, et d'exploitation économique aussi, il y a beaucoup d'espaces de décoration qui entourent le château. Des jardins d'ornement, construits à la française, de manière très symétrique. De plus en plus à l'anglaise aussi, de manière un peu plus touffue, en imitant la nature. Des potagers, des étangs, des fontaines, etc. Il y a souvent la chapelle aussi, qui appartient au seigneur. Le seigneur ne va souvent pas toujours, comme les autres habitants de la seigneurie, à l'église paroissiale, même s'il peut le faire, on y reviendra tout à l'heure, mais il dispose souvent de sa propre chapelle. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il est avec un chapelain privé, c'est-à-dire une sorte de prêtre privé qui fait la messe. Un colombier, pour abriter ses pigeons, c'est un privilège ça des seigneurs d'avoir des colombes. D'abord pour des pigeons pour les manger, pour manger les œufs, voilà. Donc c'est vraiment économique, hein. C'est pas seulement un prestige. Il y a un côté prestige parce qu'il y a une tour qui se voit de loin, mais voilà, il y a pas seulement. Il y a un moulin, un pressoir pour presser les fruits, hein, notamment les pommes pour faire du cidre, du jus de pomme, etc. Un four, une forge, voilà. qui sont souvent aux alentours du domaine ou dans le domaine. Dans le domaine, on peut trouver aussi un bois, une garenne, c'est-à-dire un espace pas cultivé qui sert de réserve de chasse. Et on rappelle que un des attributs du seigneur, c'est le monopole de la chasse. Il n'y a que les seigneurs qui ont le droit de chasser sur le domaine. Ça se paye de la prison, sinon. Hein, voilà. Donc voilà. Et donc dans ce domaine, il y a des espaces cultivés, puisque ça sert d'abord à cultiver, à produire des ressources, essentiellement du blé, mais aussi de l'avoine, de l'herbe qui va donner du foin, ou alors de pâture pour faire paître des animaux, comme des vaches par exemple. Et donc ces espaces, ils sont cultivés par des serviteurs, ou en tout cas le bétail, c'est des serviteurs qui s'en occupent. Cela dit, souvent, même dans le domaine, c'est pas un faire-valoir direct, c'est-à-dire c'est pas des serviteurs qui travaillent directement pour le seigneur qui s'en occupe, c'est souvent, il y a plusieurs exploitations, c'est-à-dire que le seigneur loue une partie de son domaine à des paysans qui sont plutôt riches, donc on les appelle plutôt des laboureurs s'ils ont l'argent de louer, enfin pas toujours, ils peuvent être aussi plus simplement des gens plus simples. Donc ils signent des contrats de location, des baux, BAUX, qui sont renouvelables et donc qui sont dans ce qu'on appelle des métairies, on appelle ça des métayers. Voilà. Et donc on peut en voir une sur le plan de ce château de Bretagne. Voilà, il peut y avoir des terrains cultes aussi, qui sont concédés à ce qu'on appelle des tenanciers, c'est-à-dire qu'ils tiennent une parcelle de terre qu'ils louent au seigneur, sous le statut de communaux, et à ce moment-là, ces terres incultes, elles sont partagées entre les tenanciers du seigneur. C'est des terres communes, communales, qui sont partagées, sur lesquelles on peut faire du glanage, récupérer des choses, cueillir des fruits, ou faire paître du bétail. Alors, donc le seigneur sur son domaine, il peut le vendre, il est propriétaire de son domaine complètement, de le démembrer, de le léguer, etc. Par contre, donc il y a le domaine, mais la deuxième partie de la seigneurie, c'est la mouvance. La mouvance, c'est-à-dire une autre partie de la seigneurie que le seigneur concède, c'est-à-dire vend ou loue le plus souvent, alors ou à des nobles. Et à ce moment-là, qui sont seigneurs de ces terres, eux-mêmes seigneurs, mais seigneurs moins importants que le seigneur principal auquel ils ont acheté leurs terres, puisqu'ils ne se situent pas dans le domaine, mais dans la mouvance. Et le seigneur principal, on l'appelle un seigneur suzerain. C'est celui qui a le domaine et qui cède, qui loue des terres dans une mouvance qui deviennent des seigneuries, donc avec des plus petits seigneurs. Alors, c'est qui ces seigneurs? C'est des plus petits seigneurs qui sont dans la mouvance du seigneur principal, du seigneur suzerain. C'est des nobles, des membres du clergé, ça peut être des abbés, des abbayes, ou des roturiers, c'est-à-dire des gens qui font partie du tiers-état, mais qui sont évidemment assez riches pour pouvoir s'acheter ce genre de seigneurie. Et donc, cette terre-là, qui sont dans la mouvance, qui viennent des seigneuries, on dit qu'ils peuvent être des fiefs. F-I-E-F, c'est-à-dire une petite seigneurie. Et dans cette petite seigneurie, donc qui fait partie de la mouvance d'une plus grande seigneurie, elle peut elle-même avoir un domaine et une petite mouvance. Vous voyez, donc c'est comme des poupées russes emboîtées. Voilà. Ou alors, donc il n'y a pas seulement des fiefs, il y a aussi tout simplement ce grand seigneur suzerain. Il peut tout simplement distribuer sa mouvance en la mettant pas sous forme de fief, mais sous forme de censive, C-E-N-S-I-V-E-S, qui sont aussi appelées parfois des tenures, et donc là, qui sont achetées ou louées par des paysans roturiers, qui s'appellent des tenanciers. Voilà, donc c'est des statuts différents de la terre, les terres nobles qui sont des fiefs, d'un côté, et les terres roturières de l'autre. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, dans une mouvance d'un seigneur principal, il y a souvent les deux, en fait. Le seigneur principal, le seigneur suzerain, peut en partie faire gérer sa mouvance par un petit seigneur sous forme de fief, et aussi sous forme de censure ou de tenure, qui sont tenus par des, tenanciers ou des, censitaires. Voilà. Donc ces tenanciers ou ces censitaires, ils sont pas vraiment propriétaires de leur terre, hein, puisque ces terres ont été concédées par le Seigneur de manière, alors on appelle ça une concession emphytéotique, c'est quasiment un bail, c'est pas comme les baux d'aujourd'hui qui sont renouvelables par les 3 ans quand vous êtes tous les 3 ans quand vous êtes locataire, c'est 99 ans. Donc ils sont presque propriétaires, mais pas complètement. Donc le Seigneur garde une sorte de propriété quand même sur des générations. Mais les tenanciers qui sont dans ces censures ou ces tenures peuvent quand même vendre, léguer, partager, affermer leurs terres. Mais en échange, ils doivent payer des droits, des obligations. C'est-à-dire que s'ils vendent à un tenancier qui se situe dans la mouvance d'un seigneur suzerain, s'il veut vendre sa terre, sa maison et tout, il peut le faire. Mais comme on considère que ça ne lui appartient pas vraiment, que la propriété vraiment la plus importante, elle est au seigneur, il doit payer des droits au seigneur pour avoir le droit de la vendre. Donc voilà, vous avez bien compris que le seigneur suzerain, c'est le patron. Hein, dans ce système qui est voilà, un rapport de domination. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc voilà comment ça s'organise. Comment est-ce que ça se lègue une seigneurie ou une terre sur une seigneurie qui appartiendrait à une mouvance ? Par une cérémonie qui a été codifiée au Moyen-Âge, pendant l'époque féodale, qui s'appelle la cérémonie de foi et hommage, dans lequel le seigneur secondaire, qu'on appelle souvent le vassal, qui s'engage par une cérémonie dans laquelle il se soumet, hein, puisqu'il se met à genoux, etc., devant le seigneur, dans la propriété du seigneur, il jure fidélité, foi, fides, c'est la fidélité aussi en latin, et il rend hommage, voilà, c'est une sorte de serment hein, qui l'engage très fort. À obéir au Seigneur. En échange, le Seigneur lui doit protection. Alors, cette cérémonie, elle est complètement tombée en désuétude au XVIIIe siècle. C'est une formalité, c'est limite une lettre hein, au XVIIIe siècle. Par contre, il y a une autre cérémonie, mais qui est plutôt très protocolaire. Ça s'appelle l'aveu et le dénombrement. Quand un nouveau tenancier ou un nouveau seigneur arrive, un nouveau vassal arrive, il doit finalement déclarer le nombre de terres qu'il a dont il prend possession. Alors, c'est surtout le vassal, hein, dans le cadre d'une seigneurie secondaire. Il doit faire une description de son fief devant notaire, qui décrit à la fois les bâtiments, mais aussi les terres, ce qu'elles rapportent, voilà, avec une carte, etc. Pour être sûr que voilà, il gère bien cette partie-là de la mouvance, pas une autre, qui ne peut pas empiéter sur un autre seigneur secondaire, etc. Ni sur les tenanciers qui seraient plutôt dans les terres roturières à côté. Enfin, voilà. Donc, foi et hommage, et aveu et dénombrement, c'est les deux formalités qu'on fait quand on prend possession d'un fief secondaire dans le cadre d'une grande seigneurie. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à retenir ? Alors, les seigneuries, en fait, elles sont très diversifiées dans le royaume de France. Certains possèdent plusieurs seigneuries. La plupart des gens, c'est des nobles, mais il peut y avoir aussi des membres du clergé, des abbayes, des couvents qui sont seigneurs, mais aussi des roturiers. Et plus on s'éloigne, plus on s'éloigne des villes, plus c'est des nobles d'épée, c'est-à-dire plus le système ancien qui vient de l'âge féodal persiste, plus on s'approche des villes, plus c'est de la noblesse d'Europe, puisqu'il y a énormément de nobles d'Europe, c'est-à-dire de magistrats qui veulent... ils ont la noblesse puisqu'ils ont acheté une charge, ils ont des fonctions éminentes en tant que magistrat, par exemple d'une cour souveraine, par exemple à Toulouse, membre du Parlement de Toulouse, et en même temps acheter une seigneurie et acheter une terre qui confère le titre de noble, par exemple un marquisat, un comtat, un duché pour les plus grands, ça leur confère une dignité qui les rapproche de la dignité un peu ancienne de la noblesse d'épée. Vous voyez, quelque part ils achètent une sorte de dignité ancienne. Voilà. Et puis être seigneur, c'est aussi quelque chose de prestigieux, puis ça rapporte des sous, hein, même si c'est difficile d'organiser une seigneurie. Alors souvent, ils font appel à des gérants, et donc ils ne logent pas dans leur seigneurie, surtout quand ils sont magistrats, qu'ils habitent en ville. Hein. L'absence des seigneurs, c'est un thème très courant. Et donc plus on se rapproche des villes, plus on a aussi des gens qui sont roturiers, des bourgeois, des banquiers, des négociants, des grands commerçants qui ont l'argent de s'acheter une seigneurie, qui eux aussi veulent une sorte de crédibilité. Alors même s'ils achètent un marquisat, ils ne deviennent pas pour autant nobles, mais ça leur confère quand même du prestige. Donc vous voyez, alors que les seigneuries les plus éloignées des villes, là, c'est des nobles d'épée qui ne sont souvent pas très riches, hein, et qui, en gros, ressemblent beaucoup à des gérants d'une grande exploitation agricole plutôt qu'à des grands nobles prestigieux. Voilà. Donc c'est une énorme variété de seigneuries dans le royaume de France. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, en termes de prestige, alors, être seigneur, ça donne droit à des privilèges. Par exemple, d'avoir un blason, des armoiries qui s'affichent partout dans la seigneurie, à l'entrée du château, sur les mesures à grains, qui servent à mesurer les grains qu'on achète au marché, sur les fourches patibulaires, c'est-à-dire sur les gibets, hein, sur lesquels on pend les gens, souvent à l'entrée de la seigneurie ou à la sortie de la seigneurie. Sur les bancs de l'église. Voilà, en gros, ils apposent leur marque, les seigneurs, et voilà. À la messe, les seigneurs et leurs familles ont un banc qui est réservé près du chœur, c'est-à-dire vraiment le plus près possible du prêtre. Il est au centre des réjouissances collectives, des fêtes patronales, des fêtes religieuses. Le jour de l'Ascension, par exemple, il joue le premier rôle, hein, il tient le premier rôle, ce qui est toujours les fêtes collectives, et notamment religieuses, sont toujours l'occasion de rappeler la hiérarchie dans la communauté paysanne. Et donc, c'est le seigneur qui est tout en haut. Voilà. Et puis, il y a des rituels qui, régulièrement, dans beaucoup de provinces du Royaume de France, rappellent la prééminence du seigneur. Par exemple, en Bourgogne, les mariés doivent apporter au château, après le mariage, de la viande, un gâteau, du pain, du vin. Dans le pays nantais, les mariés doivent chanter, offrir un bouquet au seigneur, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses symboliques qui sont là pour rappeler les rapports de subordination, c'est-à-dire de domination. Voilà. C'est un peu vu comme le premier des habitants de la communauté d'habitants. D'ailleurs, souvent, c'est lui qui tient le rôle de syndic, c'est-à-dire de représentant des habitants. Alors, les communautés d'habitants, sous l'Ancien Régime, c'est un peu comme la paroisse. Eh bien, elles se réunissent quelques fois par an pour débattre de l'organisation de la communauté, par exemple de l'organisation du culte, qui est très important. Nous, pour nous, c'est pas très important aujourd'hui, mais à l'époque, c'est très important. Par exemple, il y a les marguilliers, qui sont des hommes qui sont chargés de réparer l'église, d'entretenir les objets liturgiques, de nettoyer l'église, enfin, de tout ce qu'il y a à faire à la vie religieuse, d'organiser les processions religieuses. Donc, c'est vraiment du boulot, hein. Eh bien, eux, par exemple, ils sont nommés ces jours-là par les communautés d'habitants. Il y a le recteur aussi, qui est l'équivalent de l'instituteur, qui est souvent un prêtre, un religieux. Pareil, c'est la communauté d'habitants qui est chargée de le nommer. Et alors, la communauté des habitants, qui se réunit souvent dans l'église, hein, elle élit son syndic, c'est-à-dire son représentant, c'est celui qui organise tout. C'est souvent le seigneur. Même s'il est élu, bah, c'est pas si libre que ça. Vous imaginez bien que les habitants, bah, ils élisent plutôt leur seigneur, parce qu'ils ont envie d'être bien vus. Donc voilà, il a du pouvoir. Et puis enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que bah, il y a des évidemment, c'est aussi une question économique, la seigneurie. C'est un ensemble de droits seigneuriaux. Alors, d'abord, des droits qui viennent du Moyen-Âge, qui viennent tout simplement du fait d'être seigneur, qu'on appelle des droits féodaux. Le cens, par exemple. Si vous êtes censier ou tenancier, c'est-à-dire que si vous êtes un paysan et que, comme par exemple un métayer, et que vous louez une ferme et une petite exploitation au seigneur, ben vous devez payer un cens, C-E-N-S. C'est l'équivalent d'un impôt. Voilà, qui est lié à la location des censives ou des tenures, tout simplement. En argent ou alors en nature, mais c'est souvent en argent. Voilà, il est imprescriptible, c'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas le payer parce que les années sont dures, ben, pendant 29 ans, le seigneur peut vous le réclamer. Donc il y a au XVIIIe siècle, énormément de communautés ou de paysans qui sont en litige avec leur seigneur parce que ils peuvent plus payer leur cens, parce que les années sont dures et que le seigneur leur réclame parfois jusqu'à 20 ans, 25 ans après, parfois aux enfants des parents qui n'ont pas pu payer 25 ans. Et donc ça s'accumule. Voilà. Il y a d'autres droits féodaux, par exemple, qui se prélèvent en nature sur les fruits de la récolte. En Île-de-France, c'est le champart. C'est H. A-M-P-A-R-T, en Île-de-France. Voilà, il est prélevé lors de la récolte, un peu comme la dîme, l'impôt prélevé par le clergé. Alors, il n'est pas du tout... le Royaume de France a un royaume composite où il y a plein de statuts différents, de réalités différentes selon la province dans laquelle on habite. La loi n'est pas du tout unifiée comme aujourd'hui. Ça, c'est la Révolution qui va faire ça. Et donc, il est en Île-de-France, c'est à peu près comme la dîme. C'est 10% de la récolte. Donc, d'ailleurs, vous voyez que Champart plus dîme, ça fait déjà 20% de la récolte qui part au Seigneur et à l'Église. Bon, ça fait beaucoup. Avant même de... à peine elle est récoltée, quoi. Alors que dans Bourgogne, c'est carrément le tiers, le Champart. Donc, c'est, vous voyez, c'est encore bien pire. Voilà. C'est assez lourd. Hein. Et puis, quand vous vendez en tant que tenancier votre terre, je vous l'ai dit, hein, le Seigneur peut prélever des droits de vente, qu'on appelle les lots, L-O-D-S, ou les ventes, qui sont payés par, pas par le vendeur, mais l'acquéreur. C'est un paysan qui achète une tenure à un tenancier. Pour avoir le droit d'arriver, il faut qu'il paye. Comme les droits de notaire aujourd'hui, en gros. Voilà. Et puis, il y a les journées de travail gratuits qui sont dues au Seigneur, qui s'appellent la corvée. Il y en a quelques-unes par an, mais enfin, elles sont de plus en plus critiquées parce qu'elles sont vues, elles, comme vraiment une humiliation physique et un rappel du servage, c'est-à-dire du statut qui faisait que les paysans n'étaient pas si éloignés que ça du statut des esclaves dans l'Antiquité. Et, c'est-à-dire, enfin, voilà, le Seigneur pouvait faire travailler gratuitement les tenanciers pendant 2 ou 3 jours par an pour réparer son château, sa cuisine, tailler son jardin, enfin voilà, améliorer la route. Voilà. Enfin, la plupart des droits, ce n'est pas des droits féodaux, mais c'est des droits seigneuriaux. Et notamment, par exemple, ce qu'on appelle les banalités, c'est les impôts les plus fréquents. Le seigneur s'engage à construire les équipements dont on a besoin pour vivre dans la communauté, pour... presser les pommes, donc c'est le préfectoir, pour faire cuire le pain, qui est l'alimentation de base, hein, le four, que personne n'a l'argent de construire, hein, donc c'est le seigneur qui peut faire ça. Mais en échange, il prève des droits à chaque fois que vous l'utilisez, quoi, des taxes. On appelle ça les banalités. Le droit de justice aussi, puisque le seigneur a le privilège de rendre la justice en première instance dans la seigneurie, ça se paye. C'est une justice payante, donc vous voyez bien à quel point c'est problématique, puisque la corruption peut évidemment sévir. Très importante, voilà. En gros, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà pour la seigneurie. Mais c'est une seigneurie, donc de plus en plus, je vous ai dit, hein, les villes y échappent. Elles sont libres. Elles ont souvent acquis leur liberté au Moyen-Âge, hein, souvent à partir du XIIe siècle. C'est le grand mouvement des communes, ce qu'on appelle les communes. C'est-à-dire les villes qui veulent se gérer elles-mêmes sans la tutelle seigneuriale. Ah, je vous ai pas dit, le roi est aussi seigneur, hein, dans beaucoup de provinces. Le roi, qui est quand même anciennement le plus grand seigneur du royaume, hein, sur le domaine royal, gère aussi son domaine royal comme un domaine seigneurial dans plein de provinces. Voilà. Parfois, donc, autour des villes, il y a des seigneurs qui sont nobles, parfois membres du clergé, roturiers, mais aussi, parfois, on peut être tenancier du roi directement et avoir, en tant que seigneur, le roi. Alors, évidemment, il ne réside pas sur place, c'est des gérants, hein, qui s'en occupent, mais voilà. Voilà pour ça.